Bonsoir. Le ministre d'État au commerce extérieur proroge d'une année les mesures portant suspension temporaire d'importation des bières et boissons gazeuses en RDC. Ces mesures visent aussi l'importation des sucres bruns, des barres de fer, des ciments gris et des clinkers dans la partie ouest du pays. Dans un entretien accordé à Radio Okapi, Jean-Lucien Boussa se réjouit des retombées positives de ces mesures sur les prix comme celui du ciment qui a baissé sur le marché. Comment analyser cette décision du ministre? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois professeur Emmanuel Mukundi. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de cabinet du ministre d'État au commerce extérieur, Lenny Londo. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes président du comité professionnel des cimentiers à la FEC et aussi directeur général de la cimenterie PPC Barnett. Eric Chikouma, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, analyste économique et directeur général du média en ligne Zoomeco. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Le ministre d'État au commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, vient de proroger d'une année les mesures portant suspension temporaire d'importation des bières et boissons gazeuses en RDC et aussi des sucres bruns, des barres de fer, des ciments gris et des clinkers dans la partie ouest du pays. Une année après avoir pris ces mesures, monsieur le ministre, quel bilan dressez-vous?
Aujourd'hui, une année après, nous pouvons dire les paris est relevé. Un, la courbe de production de toutes ces industries s'est améliorée. La production a augmenté et les parts de marché de ces industries au niveau intérieur deviennent de plus en plus importantes. Deuxièmement, la qualité de ces produits n'est pas discutable. Elle est meilleure. Mais aussi, les prix ont eu tendance à baisser. Et le prix du ciment, lorsque nous avions pris cette mesure il y a une année, les sacs de ciment se vendaient à 11,12 $. Aujourd'hui, tout le monde sait que les sacs de ciment, au détail, s'élèvent à 8 $. Il y a eu un gain substantiel. Deuxièmement, d'autres objectifs que nous avons poursuivis par ces mesures, c'était de réduire la fraude massive, mais aussi de mettre fin au dumping, c'est-à-dire l'entrée dans le pays des produits qui sont vendus à des prix aussi bas et qui cassaient l'entreprise locale. Aujourd'hui, il n'y a plus de dumping. Aujourd'hui, la fraude a été sérieusement réduite. Aujourd'hui, grâce à ces contrôles aussi, les recettes dues à l'importation ont aussi augmenté.
Professeur Emmanuel Mukundi, vous êtes directeur de cabinet du ministre d'État au commerce extérieur. Lorsque le ministre avait pris ses mesures, il parlait de 3 défis du point de vue quantité, qualité et stock. Ces défis ont-ils été relevés?
Merci beaucoup d'abord pour m'avoir invité à cette émission. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs.
Aux auditeurs,
je m'excuse.
Je comprends.
Voilà, il y a une année, c'était le 25 août 2017, que son Excellence avait pris la première mesure. En fait, les contextes étaient tels que il y avait entrée massive et frauduleuse de ces produits qu'on vient de suspendre ou qu'on avait déjà suspendu en ces temps-là, avec beaucoup de conséquences. Parmi ces conséquences, on peut citer... Lorsque le produit entre de manière frauduleuse, c'est l'État le premier qui perd. L'État perdait en termes de recettes. Et puis, nos entreprises étaient mises à mal ou très mal à l'aise. Dans le sens que lorsque le ministre vient de parler tout à l'heure des dumping, ça voudrait dire que c'est de vendre à un prix inférieur que le prix du marché et abusivement. Et par conséquent, cela ne pouvait pas permettre à nos entreprises locales qui ont un coût réel, non seulement le coût de production directe, mais également le coût social, parce que ces entreprises prennent en charge, n'est-ce pas, sur le plan médical, comme sur le plan éducationnel, la population environnante, comme, n'est-ce pas, leurs employés. Ce qui fait que, dans un tel environnement, personne ne pouvait croire que prendre ces mesures-là, ça devait apporter quelque chose à l'économie nationale. Mais aujourd'hui, ça apporte quelque chose, alors grandement quelque chose à l'économie nationale. Primo, en termes de prix, comme il vient de le dire, à Kinshasa, le sac de ciment valait, en ces temps-là, 12, 11, 12, 13 $. Ça dépendait des coins. Mais aujourd'hui, bon, je ne sais pas le dire, nous avons un analyste, un journaliste, parce qu'aujourd'hui, moi, je représente l'État, il sait ce qu'il va dire à ce propos. Nous avons le représentant des entreprises qui est là, il sait ce qu'il va dire. Ça, c'est déjà un bien-être. En termes de quantité, le ciment qui était produit dans le Congo central était destiné seulement pour le marché de Kinshasa et un tout petit peu pour le marché du Congo central. Aujourd'hui, grâce à ces mesures, nous avons bloqué ces portes de l'Ouest. Ces ciments, avec les informations que j'ai eues ce matin, on le vend cette fois-ci à Ilebo. J'ai posé la question à Guémena, ces ciments sont vendus à Guémena. J'ai posé des questions à Kisangani, ces ciments sont vendus à Kisangani. Et l'effort aujourd'hui, nous voulons que cela arrive jusque très loin. Donc, en termes de quantité, en termes même de qualité et en termes de prix, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de débat à faire. J'attends seulement que la population me pose des questions. Comment on va faire pour que ces mesures bénéficient à la partie est de notre pays? Merci.
Professeur, vous parlez des recettes qui ont été engrangées. Peut-on avoir une idée de combien, par exemple, l'État a bénéficié pendant ce moment?
Mais vous savez, monsieur le journaliste, lorsque l'État prend une mesure, il n'y a pas seulement à regarder les finances publiques. Il est certes vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas, n'est-ce pas, ressortir la marge des recettes qui est apportée grâce à cette mesure. Mais seulement, je peux dire aujourd'hui, nos entreprises ou les entreprises locales ont augmenté leur production avec comme conséquence, vous le savez, c'est l'augmentation de l'emploi. Je crois que le représentant des entreprises peut vous dire. Avec l'augmentation de revenus, je crois que le représentant des entreprises peut vous le dire. Et surtout, lorsqu'on amène les ciments là où il coûtait 20 dollars, 15 dollars, 25 dollars, vous l'amenez à 10 dollars, c'est déjà un bien-être. Parce que le bien-être n'est pas seulement accroître les recettes de l'État, mais le bien-être, c'est là aussi apporter le bien de première nécessité à un prix raisonnable.
Professeur, y a-t-il eu des actions fortes du genre arrestation, procès et autres pour décourager la fraude, notamment dans la partie ouest?
Notamment dans la partie ouest, comme vous venez de le dire, il n'y a pas eu de mesures fortes, mais seulement il y a le ministère de l'Intérieur qui nous a suffisamment accompagnés avec la sécurité. Comme vous le savez, ces ciments-là n'entraient pas par la porte. Ce sont des ciments qui entraient par, ou tout ce produit-là entraient par de voies frauduleuses. Et par conséquent, lorsque ça passe ici à Kinshasa ou dans le Bas-Congo et à Lubumbashi, on appelle ça le système de Bilanga. Lorsque ça passe par le Bilanga, c'était difficile de contrôler. Mais aujourd'hui, grâce au ministère de l'Intérieur avec la sécurité, il y a eu quand même des contrôles. Grâce au ministère des Finances avec la DGDA, il y a eu aussi des contrôles. Lorsqu'on voit quelque chose de pareil, on arrête immédiatement. Donc, il y a eu des mesures pour arrêter à la porte. Et à l'intérieur, lorsqu'on vous attrape avec le produit entré de manière frauduleuse, vous avez affaire avec l'État.
Alors, vous avez fait allusion à la partie Est qui ne bénéficierait pas encore de ces retombées. Professeur, pourquoi?
En fait, là, je parle particulièrement en ce qui concerne les ciments, des barres de fer. Cependant, en ce qui concerne la boisson gazeuse et la bière, la partie Est aussi est bénéficiaire. Toutefois, il faut reconnaître que, compte tenu des infrastructures de base, il y a certains coins de l'Est où c'était vraiment difficile de pouvoir en approvisionner en boissons gazeuses et en bière. Cependant, avec les mesures prises actuellement, nous avons tenu compte de cet élément-là en se disant, lorsque vous vous retrouvez dans un coin comme Arou, vous vous retrouvez dans un coin comme Mahagi, vous vous retrouvez à Zongo, et que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir obtenir la boisson locale, il y a cette concertation entre l'administration du commerce au niveau de ces coins-là, l'AFEC de ce coin-là et les gouvernements provinciaux de ce coin-là. Vous faites une analyse, vous demandez la quantité qu'il faut et on vous donne cette dérogation pour pouvoir importer.
Merci professeur, je reviens à vous tout à l'heure. Lenny Londo, président du comité professionnel des cimentiers à l'AFEC et aussi directeur général de la cimenterie PPC Barnett, vous devez être très satisfait.
Ben écoutez, lorsqu'on prend des mesures salutaires pour préserver ou protéger l'industrie locale, ces mesures doivent être saluées. Je voulais simplement vous dire ceci, c'est que le gouvernement n'a pas pris ces mesures aussi, je dirais pas radicales, mais aussi efficaces à la légère. Le gouvernement a eu le temps d'analyser le flux des transactions avec les pays limitrophes et a constaté que les importations en provenance des pays voisins dépassaient de loin nos exportations. J'en veux par exemple pour vous donner des chiffres en valeur. D'après le rapport que nous avons eu et des chiffres fournis par la délégation angolaise l'année passée au mois d'octobre. En 2012, les Angolais ont exporté vers la RDC 2 millions de dollars en valeur. En 2016, ils ont exporté 192 millions de dollars. Et toutes ces transactions n'ont pas été tracées, n'ont pas été répertoriées dans le système bancaire. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Angola faisait face à des difficultés de devises, venait faire du dumping, c'est-à-dire vendre les produits à des prix inférieurs qu'ils vendraient dans leur propre pays, et ils sont partis avec 192 millions de dollars en cash. Ce n'est pas une mince affaire dans un pays comme le nôtre. Aujourd'hui, le plus important, c'est quoi? C'est la satisfaction du consommateur congolais. Le consommateur congolais est satisfait. Il est satisfait, comme l'a dit le ministre d'État, de trois choses. La disponibilité de produits, la qualité irréprochable des produits et la tendance baissière des prix. Souvenez-vous, au mois de juillet 2016, le sac de ciment était à 17 dollars. Je crois que le collègue sur le plateau, Eric Chikuma, va le confirmer. Aujourd'hui, c'est moitié prix. Les constructions vont bon train et la satisfaction est là. Que dire de plus?
Mais vous parlez de la qualité, de la quantité, mais on sait qu'il n'y a pas beaucoup de cimenterie en RDC et la demande est trop grande. Est-ce que vous parvenez à couvrir toutes ces demandes?
Je peux vous dire ceci, c'est que la demande dans la partie ouest, elle est couverte. Nous partons du Congo central, nous passons par Kinshasa, nous traversons le Bandundu, nous approchons maintenant le Kasaï jusqu'à Ilebo, on essaie de pénétrer Kananga, puisqu'on est déjà à Tchikapa. Je parle ici pour l'ensemble des producteurs de ciment. Nous desservons l'ex-province de l'Équateur, nous arrivons à l'ex-province orientale à Kisangani, et nous acheminons nos produits jusqu'à Bunia ou à Likale. Ce qui veut dire que nous n'avons pas tous les moyens pour atteindre la partie est, mais je pense que lorsque l'on va améliorer les infrastructures de la République, on aura la possibilité de les acheminer jusqu'à l'est du pays.
Et donc les grands défis, c'est entre autres les infrastructures.
Mais justement, on ne peut pas réaliser ces infrastructures de qualité, ces infrastructures adéquates sans le ciment. Le ciment est l'ingrédient principal pour construire des ponts, des chaussées, des routes, des viaducs. Il faut du ciment. Et dans toutes ces infrastructures, le ciment compte pour entre 45 et 50 % de matériaux de base. Donc on ne peut réaliser ces infrastructures qu'avec le ciment.
Il y a Fikiri Chomba, cet internaute qui nous écrit de Bukavu, qui dit « Je ne pense pas que ces mesures interdisant l'importation de certains produits puissent avoir de retombées positives sur le marché congolais. Au contraire, le prix n'a fait que galoper. À mon avis, le ministre est déconnecté de la réalité sur le marché. Le problème du Congo réside dans l'assainissement du climat des affaires pour permettre aux investisseurs d'implanter les usines dans notre pays pour pallier aux carences sur le marché. Trop d'impôts tuent l'impôt, dit-on. La RDC doit tout faire pour attirer les investisseurs. »
Non, mais je crois que l'amélioration du climat des affaires, ce n'est pas une question de texte. C'est aussi une question de comportement. Comment nous, Congolais, réagissons vis-à-vis des investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. Ce discours de Mme Chomba, je trouve ça assez regrettable. Parce qu'elle ne peut pas dire qu'elle vit à Kinshasa, et que si elle avait acheté du ciment l'année passée à un prix au-delà de 10 dollars, aujourd'hui elle achète un prix en dessous de 10 dollars, aux environs de 8 dollars, qu'elle dise qu'il n'y a pas une amélioration significative. Voilà.
Alors, vous parliez tout à l'heure de Kisangani. Il y a Lisa Mbaikia Mwamba qui nous écrit de Kisangani, qui dit « Le ministre d'État chargé du commerce extérieur n'a pas raison de proroger ces mesures, car aujourd'hui à Kisangani, le ciment est vendu à 23 000 francs, voire 25 000 le sac, contrairement au moment où il y avait l'importation. »
Non, mais écoutez, soyons sérieux. Hein, écoutez, pour porter le ciment jusqu'à Kisangani, il faut le transporter. Qu'est-ce qu'il faut transporter? Il faut un système multimodal. Il y a le camion, il y a le chemin de fer et il y a les barges. Et chaque étape, chaque segment pour relier d'un point à un autre a un coût de transport. Et ce coût de transport dépend également de la disponibilité des barges. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de stock de ciment en souffrance à Kisangani. Toutes les compagnies de production de ciment envoient leur ciment à Kisangani qui sont vendus. Il y a même qui sont vendus en avance. Donc, ce qui veut dire que la demande, elle est là. Elle est forte. Mais ce qui nous gêne pas, mais qui essaye de tempérer nos ardeurs à pénétrer davantage l'intérieur du pays, c'est le moyen de transport.
Merci Leni Londo. Eric Chikuma, vous êtes journaliste, analyste économique, directeur général du média en ligne Zoom Echo. Quelle est votre analyse par rapport à cette mesure du ministre prorogeant, évidemment, les mesures interdisant l'importation de certains produits?
Merci d'abord pour l'invitation, mais je pense que mes deux co-débatteurs l'ont déjà dit. C'est une mesure salutaire. Il y a lieu d'encourager ce genre de mesures afin de pouvoir protéger l'industrie locale congolaise qui est encore, s'il faut le reconnaître, embryonnaire. Vous pensez, et vous le savez autant que moi, qu'il est très important de diversifier l'économie nationale, notre économie. Nous ne devons pas demeurer une économie qui reste extravertie, ne comptez que sur le mine. Il n'y a pas que le mine en République démocratique du Congo. Il est très important d'exploiter toutes les possibilités devant permettre à l'économie de quitter l'étape d'une économie des rentes. Que nous puissions être une économie diversifiée, une économie porteuse de croissance. Donc, il est très important pour nous d'encourager ces genres de mesures afin de pouvoir diversifier notre économie. Et par diversification de l'économie, le plus important, c'est où cela passe par l'industrialisation. Et nous devons industrialiser. Industrialiser, c'est protéger notamment cette industrie naissante. Le ministre d'État a pris, c'est pour la deuxième fois, je pense depuis qu'il est là, de prendre de telles mesures. Il y a un cimentier qui est à ma droite, il venait de le dire tout à l'heure. Donc pour eux, cette mesure est salutaire, d'autant plus qu'elle leur permet non seulement d'accroître leur niveau de production, ce qui est d'ailleurs aujourd'hui perceptible si je me permets d'évoquer quelques chiffres de la Banque centrale par rapport au rapport du comité monétaire de politique monétaire publié le 31 août dernier, comptant pour le premier semestre de l'année. Il y a lieu de constater que la croissance du PIB au prix constant en rapport avec l'industrie manufacturière a connu une variation de 2,3% en 2018, au premier semestre 2018, par rapport à 2017. Donc, c'est déjà un point de satisfaction par rapport aux mesures qui ont été prises afin de pouvoir protéger la production locale, protéger l'industrie locale. Parce que lorsque vous protégez l'industrie locale, le Congolais doit le savoir. Lorsqu'il paye le prix d'un sac de ciment produit ici en RDC, un sachet de sucre produit ici en RDC, il permet à l'État de recouvrer des impôts, des taxes et autres droits relatifs à cette production. Et cela enrichit l'assiette fiscale, le trésor public, de sorte que le gouvernement puisse avoir de moyens pour pouvoir faire sa politique. Donc il y a lieu de saluer ces genres de mesures, mais il y a un élément, un aspect important, c'est la mise en œuvre de ces mesures. Je pense que au niveau de la population, au niveau même des opérateurs économiques, nous en avons un représentant ici qui est de surcroît membre de la FEC. Le problème, c'est la mise en œuvre. Aujourd'hui, à travers nos frontières, il faut le reconnaître qu'il y a encore cette pratique frauduleuse qu'on appelle phénomène bilanga. C'est pas seulement ici au Bas-Congo, mais c'est dans toutes les frontières, à Bunia, Mahagi, Kasumbalesa, tout ça, le phénomène bilanga continue à exister, quand bien même les efforts sont fournis pour l'éradiquer.
Alors, vous avez suivi certaines réactions que j'ai citées ici, des auditeurs, des internautes qui continuent à rester pessimistes malgré tous les efforts fournis.
Oui, rester pessimiste, les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain par un coup de baguette magique. Il faut être de mauvaise foi pour penser que on prend une mesure aujourd'hui et on l'exécute demain et tout marche bien. Nous venons d'où ? Il y a une année, mes co-débatteurs l'ont dit ici, le prix, notamment des sacs de ciment, était en constante augmentation. Il y avait rupture de stock. Ici, à Kinshasa, il y avait pénurie. Les gens semblent oublier. Et le fait de donner l'opportunité à des industriels locaux de pouvoir avoir des débouchés pour écouler leur production, c'est un fait important qui permet, en fait, à la nation de survivre.
Alors, nos frontières sont réputées poreuses, vous l'avez dit tout à l'heure, et du moment qu'il y a ces efforts qui sont fournis et qu'il y a quand même cette réduction, je ne dirais pas très sensée, mais réduction tout de même de cette fraude, et donc il faudrait capitaliser ces efforts.
Justement, s'il y a quelque chose sur lequel, ou un point sur lequel le gouvernement devrait travailler, le ministre Boussa, je pense qu'il le comprend, puisque depuis qu'il est là, c'est en tout cas, il s'y met, en tout, je constate qu'il s'y met pour pouvoir réussir, relever ces défis. Mais je pense que, je lui recommande d'ailleurs, de pouvoir accélérer la surveillance, renforcer la surveillance sur cet aspect-là, de sorte que la mesure soit appliquée des rigueurs. Jusqu'à preuve du contraire, il y a encore un mois et demi, j'ai appris que la sucrière de Kwilungongo s'est plaignée du fait du non-écoulement ou de la surproduction du sucre brun. Donc, elle a encore des difficultés parce que au niveau du Bas-Congo, du Congo central, il y a encore du sucre importé de l'Angola qui continue à être écoulé sur le marché local. Ça, c'est un problème. Ça signifie qu'il y a une défaillance de services de l'OCC, de la DGDA,
qu'il faut renforcer.
Ainsi de suite, qu'il faut renforcer. Donc le gouvernement doit travailler dessus.
Merci. Professeur Emmanuel Mukundi, à pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Patient Biamungur Kouba depuis la ville province de Kinshasa. La déclaration du ministre d'État au commerce extérieur est contradictoire car cette prorogation sous-entend l'échec de la première décision pour s'attendre aux résultats escomptés à l'issue de cette dernière. C'était peu comme un médecin qui administre une deuxième tire à une même maladie. Comment peut-il expliquer cette prétendue baisse de prix alors qu'aucune nouvelle usine, soit de ciment, des barres de fer, du sucre, ni des clinkers n'a été créée à l'issue de sa décision, à moins qu'il n'ait usé d'une baguette magique. La réalité sur terrain les contredit car jusque-là, le prix du sac de ciment à travers le pays est toujours à 8,5 $, voire même 20 $ dans d'autres provinces comme les Maniema, contrairement aux pays voisins où il revient à 5 $, comme à Lufu en Angola. La bière est revenue au double du prix d'avant sa décision, avec comme conséquence la résurgence des boissons locales communément appelées guégué et leur marché clandestin, avec leurs effets nocifs sur la jeunesse, débouchant au développement du phénomène Kuluna.
Professeur, qu'est-ce que vous répondez à Patient? Vous savez que cette émission est aussi pédagogique.
Merci beaucoup, monsieur Patient, pour votre observation. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je suis venu pour répondre aux préoccupations des auditeurs. Au fait, je commence d'abord par l'Angola. Avant qu'on prenne la mesure, le sac de ciment en Angola s'est vendu à 8 $. Mais comment se fait-il qu'un sac qui se vend à 8 $ en Angola puisse se vendre encore à Kinshasa à 10, 8, 9, 8, 10 $. Il y a un problème économique. Avec nos recherches pour prendre ces mesures, nous avons découvert que le ciment ne venait pas d'Angola. Le ciment venait d'ailleurs pour profiter, passant par l'Angola, et entrer au pays pour le vendre de manière frauduleuse. Donc, que notre ami patient c'est tranquille, qu'il soit calme. Le ciment n'a jamais été à 4 $, comme il est dit en Angola. Donc, c'est au-delà des 8 $. Est-ce que ces mesures ont échoué? Mais pas du tout, mon cher ami patient. Vous êtes à Kinshasa quand même. En ce temps-là, le sac de ciment valait 25 000 francs congolais. Mais aujourd'hui, il est à combien? Donc le sac de ciment a baissé énormément le prix. Je suis d'accord avec... moi, j'ai suivi un auditeur, de Kivu, qui a parlé de l'assainissement des affaires. Il dit, bon, ces mesures-là n'ont rien apporté. Il doit avoir raison, parce que il faut dire à la population que les mesures sont prises à deux niveaux. Outre la bière et les boissons gazeuses, qui couvrent toute l'étendue de la République, pour les autres produits, c'est l'ouest de la République démocratique du Congo. Donc, le frontière de l'ouest, ici, il faut considérer Congo central et Kinshasa et Bandundu. Même alors, il y a un auditeur qui a dit à Kisangani, le sac de ciment coûte...
entre 23 et 25 000
23,
francs.
23-25 000 francs. Alors qu'avant, c'était moins que ça. Parce qu'on a interdit les importations. Non, pas du tout. Kisangani, c'est la partie Est, on n'a pas interdit. D'ailleurs, moi, je demande, moi personnellement, s'il y a des importateurs qui aiment le Congo, c'est le moment d'importer par l'Est et faire entrer les ciments par l'Est pour faire baisser les prix. Parce que si à Kisangani, le ciment coûte 23 000. Mais moi, je vous dis, chez nous, dans le Tanganyika, particulièrement chez moi à Nyunzu, je viens de poser la question ce matin, on m'a dit les sacs coûtent 50 000 francs congolais. Si un importateur qui aime le Congo, il n'a qu'à importer de ce côté-là pour faire entrer de ce côté-ci.
Est-ce que vous n'allez pas faire rougir PPC Barnett et les autres cimentiers?
Non, mais attendez. Moi, je suis l'État, je vous ai dit au départ. Lui, c'est un entrepreneur, je le protège, comme je le fais ici dans la partie ouest. Mais je protège aussi le consommateur. Je protège le consommateur de Kinshasa qui achetait hier le sac de ciment à 12-13 $. Aujourd'hui, c'est 8 $. Je les ai protégés. De la même manière, je voudrais qu'on protège aussi les consommateurs de l'Est.
Professeur, vous avez suivi Eric Tshikuma évoquer la mise en œuvre des mesures qui posent encore problème, notamment à cause de la multiplicité des services qui facilitent une certaine fraude. Il a aussi énuméré la question ou la... le problème de la sucrière de Kwilongongo en surproduction. Est-ce que vous confirmez cela?
Bon, au fait, je commence d'abord par la fraude. Effectivement, dire qu'il y a trop de services à la frontière, non, mais ça, on a déjà réduit. Il y a seulement 4 services qu'on appelle les services d'ordre
opérationnel. Officiellement.
Mais la fraude ne passe pas par la voie officielle. Comme il a dit, la fraude passe, ces importateurs-là passent par les bilingues. Et l'effort que nous faisons actuellement en ce qui concerne le sucre, quand je dis nous, il y a la sécurité, il y a le ministère des Finances avec des GDA, nous-mêmes avec l'OCC Consort, nous faisons cet effort d'aller même dans ce coin et recoin. D'ailleurs, pour essayer d'anéantir cela, au niveau de la partie Est, nous organisons seulement le petit commerçant dans le cadre de ce qu'on appelle le RECOS. Donc nous organisons déjà des petits commerçants, de sorte qu'à savoir qui est réellement commerçant.
Merci. Léni Londo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Emmanuel Muyumba depuis Kisangani. À ce moment, la prorogation est salutaire dans la mesure où elle serait une sorte de moratoire que les entreprises internes opérant dans les secteurs affectés devront bien se préparer, ce qui ne sera pas facile si elles ne multiplient pas leurs capacités productives. Par ailleurs, il va falloir à l'État de mettre la main dans la poche pour soutenir ces entreprises. Cependant, il n'est pas sérieux quand le ministre affirme que les suspensions permettraient la baisse des prix dès lors que l'on sait que la concurrence n'aura plus la place et que l'offre va baisser. Pourtant, c'est de la concurrence et de l'augmentation de l'offre que le prix devrait baisser. Voilà ce que nous considérons un peu comme paradoxe. À notre avis, cette mesure est inopportune car nos entreprises sont productivement faibles. D'ailleurs, ce qui justifie nos importations. Aussi, elles ne seront plus qualitatives par manque d'émulation des produits venant d'ailleurs.
Léni Londo.
Bien, écoutez, je crois qu'il y a eu contradiction. Il a dit « mesure, c'est salutaire ». Il peut rapport plus, il dit « les mesures n'auront pas d'efficacité ». Je ne pense pas, cher auditeur de Kisangani.
Emmanuel Muyumba.
Emmanuel Muyumba. Je voulais simplement vous dire que si aujourd'hui nous n'arrivons pas à écouler beaucoup, non, plutôt à fournir une grande quantité de ciment à Kisangani, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est une déficience de moyens de transport fluvial jusque Kisangani. Mais nous pouvons le rassurer d'une chose, que les trois usines opérationnelles actuellement dans la province du Congo central disposent d'une capacité installée de 1 200 000 tonnes de clinker. Mais lorsqu'on y ajoute, par an bien sûr, lorsqu'on y ajoute le gypse pour faire du ciment, nous avons une capacité installée de 1 400 000 tonnes de ciment par compagnie. Donc on arrive à peu près à 3 millions et quelques.
Ce qui reste encore insignifiant par rapport à un pays aussi vaste que la RDC.
Mais tout dépend d'une chose, la valeur des demandes. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons besoin de vendre. Pour vendre, il faut qu'on trouve une demande solvable. Pour trouver une demande solvable, il faut qu'il y ait des revenus. Mais ce que nous faisons, nous déployons des produits partout à l'intérieur du pays. Nous bénéficions de soutien du gouvernement à travers des mesures incitatives additionnelles qui sont inscrites dans le partenariat stratégique sur la chaîne de valeur. Mais je voudrais revenir à une chose qui n'a pas été mentionnée. L'amélioration du climat des affaires. J'ai dit ceci, c'est une question d'hommes, de personnes. Si je peux vous dire, il y a encore quelques importations frauduleuses qui sont effectuées à travers des voies qui ne sont pas contrôlées par la DGDA. Mais ce que nous avons relevé, c'est que tous les distributeurs de ciment ne veulent plus de ciment angolais. Tous les dépôts ciment ne veulent plus du ciment angolais. Pourquoi? Parce que les clients congolais leur disent, messieurs, nous voulons des produits locaux. Ça, c'est une victoire. Et cette victoire-là, nous allons capitaliser là-dessus. On va continuer à améliorer la qualité du ciment, la disponibilité du ciment et améliorer le prix. Ça, c'est une victoire d'une de ces mesures.
Robert Bahomé de Bukavu dit proroger d'une année ces mesures prises par le ministre d'État, ministre du Commerce extérieur, c'est plutôt chercher à étouffer davantage l'économie nationale. Apparemment, ces mesures ne sont pas salutaires ni avantageuses aux consommateurs. Je me demande alors comment de telles mesures peuvent tomber sans pour autant prévoir d'abord un plan d'industrialisation locale pour faire face aux importations de bières, notamment, et boissons gazeuses, ainsi que des autres produits, les Nilundo.
Non, je n'entrerai pas dans des considérations d'analyse et économique ici. Ce que je voudrais simplement dire à cet auditeur, les États-Unis disposent d'une économie la plus libérale au monde. Depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, que fait Donald Trump? Il prend des mesures pour sauvegarder, pour protéger l'économie américaine. Que fait-il? Il augmente les tarifs douaniers pour essayer de contenir les importations chinoises. Les Chinois, ils essayent de réagir, mais ils n'arrivent pas. Parce que les importations américaines des produits chinois inondent le marché américain, détruisent les emplois, poussent les entreprises à fermer les usines. Il a pris ces mesures-là. Il a même pris les mesures vis-à-vis de ses voisins, que ce soit le Canada ou le Mexique. Il a pris des mesures similaires des produits européens. Aujourd'hui, une marque comme BMW est en train de revoir toute sa stratégie d'implantation aux États-Unis parce que Donald Trump a pris ses mesures de protection de l'économie américaine. Si les États-Unis se permettent de prendre de telles mesures, la plus grande économie du monde, la première économie du monde, et pourquoi pas le Congo qui a une petite industrie qui est naissante et qui est en train de prendre la vol.
Merci Lenny Londo. Eric Chikumaya, pour vous, cette réaction qui nous vient du Kasaï central.
Parce que non, je suis à Kananga, au Kasaï central. Je trouve non seulement fantaisiste, mais également folklorique cette décision du ministre Boussa, car les ministres devraient s'attaquer aux causes qu'aux conséquences. Le problème n'est pas de suspendre les importations, mais de créer localement par le gouvernement des industries et usines qui fabriquent les produits que la population importe. Car je me demande sur quoi se base le ministre pour se féliciter quand on sait qu'au Congo, on importe tout jusqu'au Kurdon. Ainsi, que répondrait le ministre Boussa à l'affaire du Kasaï, qui ont vu le prix des ciments, barres de fer, sucre et boissons, même produits manufacturés diminués sur le marché grâce à l'importation de produits issus de l'Angola via la frontière de Kalambambudi et Mwenyambulu. Car au Kasaï, le prix du ciment et du sucre a diminué grâce aux importations, sachant que cette partie du pays, il n'y a aucune usine nationale. Bref, la meilleure solution resterait le financement et la création par l'État des usines locales dans ces différents domaines que de faire du folklore.
Éric Picouma.
Cher ami, je pense que ce n'est pas du folklore. Ça, c'est un point de vue personnel. Je parle en tant que journaliste parce que nous observons. Vous avez dit ici que l'émission, elle est aussi pédagogique. Je pense que nous avons cette obligation de réagir de manière aussi intelligente pour expliquer aux Congolais c'est quoi le problème.
En apportant la bonne information,
en apportant
évidemment
la bonne information. Je pense qu'il faut qu'on arrête à demeurer ce pays importateur de tout, jusqu'au cure-dent, comme il est en train de dire. Et pour qu'on arrête cette importation massive de produits, des denrées alimentaires, ainsi de suite, nous devons commencer quelque part. Nous ne devons pas croiser nos bras, dormir sur nos lauriers, tranquillement, pensant que demain, ça se fera par un coup de baguette magique. Non. Alors, pour renforcer ce que je suis en train de dire, toute entrée frauduleuse de produits ici en République démocratique du Congo égale à une fraude fiscale qui entraîne un manque à gagner à l'État et un profit pour le contrebandier, c'est lui qui importe de manière frauduleuse, le fraudeur, qui n'est pas astreint à fixer un prix réel de ses produits sur le marché. Ce qui fait, ce qui entraîne par conséquent, c'est qu'on appelle une concurrence déloyale avec la production locale. Donc, trois choses qu'il faut retenir par rapport à ces mesures qui ont été prises, je vais être bref, c'est la première, la disponibilité de produits, la deuxième, c'est en fait la tendance baissière de ces prix sur le marché, ainsi que la disponibilité, disons la qualité de ces produits, parce que ce qui est produit localement a une qualité assurée, contrairement à des produits Kuka qu'on importe de l'Angola. Vous ne savez même pas dans quelles conditions ces boissons ont été importées et vous consommez ici sans pour autant que ces produits soient contrôlés par l'OCC, soient autorisés à accéder sur le sol congolais et être vendus sur le marché congolais. Donc, et le 3, ces trois résultats, en fait, je le résume en une phrase, c'est la satisfaction en fait du besoin du consommateur. Je pense que mon co-débatteur l'a dit ici tout à l'heure. Et puis la promotion de l'économie nationale, de l'industrie nationale, parce que nous devons arriver à booster notre industrie qui est naissante, je l'ai dit tout à l'heure. Et la République démocratique du Congo n'est pas le seul pays, ça il faut qu'on le retienne, n'est pas le seul pays à avoir pratiqué ces genres de mesures. Les États-Unis, d'ailleurs, c'est plus récent aujourd'hui, si nous assistons à une future guerre économique qui va arriver, c'est en fait une guerre commerciale. Vous voyez ce que Donald Trump est en train de faire aux États-Unis. Donc, c'est encore un exemple plus proche qui peut servir aux Congolais afin de comprendre qu'il est important de protéger l'industrie locale. Donc, nous devons avoir une économie assise sur la production, j'étais en train de le dire tout à l'heure. Pour être compétitif, il faut que nous puissions aller vers l'industrialisation. L'industrialisation est indispensable, je le répète. Nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, au premier escalier des économies des rentes. Et il faut protéger notre industrie afin d'aller vers l'industrialisation, vers une croissance qui soit porteuse de travail, porteuse de l'emploi, porteuse de richesses qui sera distribuée par l'ensemble ou à l'ensemble du peuple congolais.
Professeur, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Qu'est-ce que vous répondez à certains auditeurs qui pensent que le ministre s'attaque aux causes plutôt qu'aux conséquences? Aux conséquences plutôt qu'aux causes.
Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on entend par cause et qu'est-ce qu'on entend par conséquence? Je voudrais juste, comme l'a dit mon prédécesseur, calmer cet auditeur, parce que en économie, ou particulièrement en politique économique, il y a ce qu'on appelle les mesures de stabilisation et les mesures d'ajustement. Les mesures de politique commerciale, surtout que nous sommes souscripteurs, n'est-ce pas, du système commercial multilatéral au travers de l'OMC, acceptent qui est ce qu'on appelle les mesures de sauvegarde et les mesures de protection de l'industrie. Comment on prend ces mesures-là? C'est lorsqu'on constate que la pratique de voisins, ici en termes de pays, n'est-ce pas, dérange énormément l'industrie locale. Et lorsque ça dérange l'industrie locale, ça dérange la consommation interne, ça dérange la population. En ce moment-là, l'État doit prendre des mesures. Et ces mesures-là, premièrement, en ce qui concerne le musée de l'OMC, il faut commencer d'abord par sauvegarder l'industrie. Il faut la protéger. Parce que si vous laissez votre industrie, comme le souhaite mon ami de Kananga, qui souhaite qu'on laisse tout, qu'on ne prenne aucune mesure, si vous laissez, en d'autres termes, vous appelez tous ceux qui sont au travail, tous ceux qui sont dans ces entreprises, au chômage. Et lorsque vous amenez tous ceux qui sont dans les entreprises au chômage, vous les privez du revenu. Et lorsque vous privez de revenus, vous les privez, n'est-ce pas, de scolariser des enfants ou d'apporter la santé aux enfants. Voilà les conséquences.
Merci.
Et ça, l'État ne peut pas tolérer. Et nombre d'États comme Jean-Lucien, il l'a fait en économiste averti.
Merci. Léni Londo, vous avez suivi beaucoup d'auditeurs émettre beaucoup de craintes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour les apaiser?
Non, je voudrais dire à tous les auditeurs que l'État ne crée plus les entreprises. C'est fini l'économie où l'État créait les entreprises. L'État ne crée plus les emplois. L'État ne crée plus les richesses. Ce sont les privés qui créent les richesses sur lesquelles l'État prélève l'impôt et taxes pour financer les dépenses publiques. Mais avec les importations frauduleuses, comment voulez-vous que l'État trouve les ressources nécessaires pour pouvoir investir? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons des écoles, nous voulons des hôpitaux, nous voulons des routes. Vous savez, vivre en ville, par exemple, à Kinshasa, a un prix. Il faut qu'il y ait un prix sur l'assainissement. L'assainissement se fait sur quoi? Se fait sur les dépenses publiques, sur l'investissement dans l'infrastructure. Pour avoir ces infrastructures, il faut du ciment. Je peux vous assurer d'une chose, que le gouvernement a intérêt à accompagner les industries présentes et permettre à d'autres de venir investir au Congo. On va créer des emplois. Il faut être fier de ce que nous réalisons. Qu'est-ce que nous avons à critiquer quelque chose que nous apprécions? Aujourd'hui, lorsque les léopards gagnent, tout le monde applaudit. Mais aujourd'hui, nous investissons pour que les Congolais se retrouvent et nous puissions transformer notre pays.
Il faut la transformer. Et en conclusion?
Et en conclusion, je peux vous dire simplement que le client, le consommateur est satisfait. C'est ce que nous recherchons, la satisfaction du consommateur. Et la satisfaction, elle est là.
Point barre.
Je crois que c'est le béaba des sciences économiques,
voilà.
La satisfaction du consommateur.
Éric Tshikouma, à suivre votre discours, j'ai l'impression qu'il faudrait que le gouvernement prenne encore d'autres mesures courageuses, même si elles étaient impopulaires au commencement.
Justement, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut même aller installer des services de sécurité à tous les endroits où c'est identifié la pratique, où s'effectue la pratique du phénomène bilanga à travers le pays, généralement au niveau de frontières de la République démocratique du Congo, afin de pouvoir lutter contre cette contrebande, cette fraude, cette entrée frauduleuse et massive de produits à commercialiser sur le marché congolais pour faire concurrence à la production locale, au Made in Congo, que nous devons tous protéger. Donc, à la FEC...
En guise de conclusion.
En guise de conclusion, je recommande à la FEC d'accompagner ces mesures prises par le ministre d'État, Jean-Lucien Boussa, au nom du gouvernement, et accompagner le service de sécurité dans la mise en œuvre de ces mesures. Et au peuple congolais, consommons simplement congolais, c'est ça le sursaut patriotique qui nous permettra d'avoir de moyens nécessaires pour faire évoluer ces pays.
Professeur Emmanuel Mukundi, juste un mot pour conclure.
Le mot, c'est que prendre de telles mesures, ça nécessite un courage politique et une technicité économique. C'est ce que nous avons fait.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Réalisation, Guy Maté, supervision, Pelekipe Lamondo, mise en onde, Jean-Noël Mokondo, présentation et coordination, Alain Rung-Mouchige. Merci de votre attention. Au revoir.